Ainsi, dans ce monde moderne, tout entier tendu à l'argent, tout à la tension à l'argent, cette tension à l'argent contaminant le monde chrétien même, lui fait sacrifier sa foi et ses mœurs au maintien de sa paix économique et sociale. C'est là proprement ce modernisme du cœur, ce modernisme de la charité, ce modernisme des mœurs. Il y a deux sortes de riches, les riches athées, qui, riches, n'entendent rien à la religion. Ils se sont donc mis à l'histoire des religions et ils excellent. Et d'ailleurs, il faut leur faire cette justice qu'ils ont tout fait pour n'en point faire une histoire de la religion. C'est eux qui ont inventé les sciences religieuses. Et les riches dévots, qui, riches, n'entendent rien au christianisme, alors ils le professent. Tel est, il faut bien voir, il faut bien mesurer, tel est l'effrayant modernisme du monde moderne. L'effrayante, la misérable efficacité. Il a entamé, réussi à entamer, il a modernisé, entamé la chrétienté, il a rendu véreux dans la charité, dans les mœurs, il a rendu véreux le christianisme même. Ai-je besoin de dire, pour mémoire, de noter et de faire noter combien ce socialisme même était dans la pure tradition française, combien il était dans la lignée française? L'assainissement, l'éclaircissement du monde a toujours été la destination, la vocation française, l'office français même. L'assainissement de ce qui est malade, l'éclaircissement de ce qui est trouble, l'ordination de ce qui est désordre, l'organisation de ce qui est brut. Faut-il noter combien ce socialisme à base de générosité, combien cette générosité claire, combien cette générosité pleine et pure était dans la tradition française, plus que dans la tradition française même, plus profondément dans le génie français, dans la sève et dans la race même, dans la sève et le sang de la race, une générosité à la fois abondante et sobre, généreuse et pourtant renseignée, pleine et pure, féconde et nette, pleine et fine, abondante, sans niaiserie, renseignée, sans stérilité. Un héroïsme enfin plein et sobre, gai et discret, un héroïsme à la française. Tel étant notre socialisme, un socialisme français, quel devait être notre dreyfusisme, un dreyfusisme éminemment français? La plus grande erreur sur ce point, la plus grande illusion sur ce chef de la patrie est venue sans aucun doute de l'affaire Hervé, de l'hervéisme, de la démagogie hervéiste, et surtout et sans aucun doute beaucoup plus de la complaisance suspecte à la démagogie hervéiste. Je ne parlerai qu'avec un grand respect d'un homme qui vient de rentrer en prison pour la troisième ou quatrième fois, peut-être plus. Au moins, il va en prison. On en saurait dire autant de M. Jaurès, qui s'est toujours arrangé pour ne pas aller en prison. Et pourtant, ce n'est point tant Hervé qui a fait le virus de l'hervéisme, de la démagogie hervéiste. C'est sans aucun doute M. Jaurès, nul autre. Ce sont les louches conversations, les intrigues, les compromissions, les négociations de groupes et de congrès, de partis et d'unification. Ce sont les troubles ententes, les avances, les platitudes, les plates capitulations de Jaurès à Hervé et à tout le hervéisme. Ce qui fut dangereux dans Hervé et dans le hervéisme, mortellement dangereux, ce ne fut point tant Hervé lui-même, ce ne fut point tant le hervéisme, ce fut Jaurès et le jaurésisme, car ce fut cette incroyable capitulation perpétuelle de Jaurès devant Hervé, cet aplatissement, cette platitude infatigable, cette capitulation en quelque sorte autorisée, officielle, revêtue d'un grand nom et du nom d'un grand parti qui seul par conséquent pouvait lui donner quelque autorité et le lui donna quelques vêtements, quelques consécrations. Cette capitulation constante qui ne gonfla pas seulement Hervé d'orgueil, mais qui le revêtit très authentiquement d'une autorité morale, d'une autorité politique, d'une autorité sociale, car l'homme qui l'autorisait ainsi et de la meilleure des autorisations en capitulant perpétuellement devant lui et presque solennellement, en causant même avec lui, avait lui-même une haute autorité morale, celle précisément que nous lui avons conféré. Il avait une grosse autorité politique, une grosse autorité sociale. Il ne faut jamais oublier que pendant toute cette période, cet homme, par cette invention qu'il avait faite du combisme et qu'il maintenait, patronnait, protégeait, représentait le gouvernement même de la République. Il y eut ainsi ici un des plus beaux cas qu'il n'y eût jamais eu de détournement d'autorité morale, politique et sociale, et ainsi de report de la responsabilité. Sans Jaurès, Hervé n'était rien. Par Jaurès, avec Jaurès, il devint autorisé, il devint authentique, il devint comme un membre et secrètement, à beaucoup près, le plus redouté du gouvernement de la République. Par Jaurès, par le jaurésisme, par le combisme, c'était le gouvernement même, pour ainsi dire, qui recevait, qui endossait Hervé. Cela étant, il faut serrer de plus près, d'un peu plus près, il faut serrer au plus près cette affaire Hervé. Il faut bien voir ce que cela veut dire, ce qu'il y avait dedans. Et la serrant, il faut bien dire que ceux qui ont fait et endossé Hervé, fait et endossé le hervéisme, sont ceux qui ont fait une atteinte mortelle, qui ont porté un coup incalculable, un coup mortel à la croyance publique, à l'innocence de Dreyfus. C'est par eux, surtout par eux, par Jaurès, dans la mesure où il a autorisé Hervé, par Dreyfus même, dans la mesure où il a autorisé Jaurès, que nous sommes retombés sur ce palier moyen, sur ce palier sans fin, à mi-côte, dont nous avons dit que nous nous sortirions, que nous ne remonterons jamais, dont nous avons dit que l'histoire ne remonterait jamais. Car il faut enfin, en quelques mots, démonter le mécanisme de cette dangereuse, de cette démagogie mortelle. Il me semble bien, si ma mémoire est bonne, si mes souvenirs sont justes, que pendant toute l'affaire Dreyfus, nous nous efforcions de démontrer que Dreyfus n'était pas un traître. Autant que je me rappelle, c'était nos adversaires qui s'efforçaient de démontrer, ou enfin qui prétendaient, qu'il était un traître. Ce n'était pas nous, autant que je me rappelle. Nous nous prétendions qu'il n'était pas un traître. Les uns et les autres, autant qu'ils m'en souviennent, nous avions un postulat commun, un lieu commun, c'est ce qui faisait notre dignité commune, c'est ce qui faisait la dignité de toute cette bataille, c'est ce qui fit bientôt notre force et cette proposition commune initiale qui allait de soi, sur laquelle on ne discutait même pas, sur laquelle tout le monde était tombé d'accord, dont on ne parlait même pas, tant elle allait de soi, qui était sous-entendu partout, qu'on a honte de dire, tant elle allait de soi, c'était qu'il ne fallait pas trahir. Que la trahison, nommément la trahison militaire, était un crime monstrueux. Tout a changé de face depuis que, sur ses bords, tout le mécanisme a été démonté, détourné, remonté à l'envers, depuis que Hervé est venu, de ce que Hervé est venu. Hervé est un homme qui dit au contraire. Les anti-dreyfusistes et nous, les dreyfusistes, nous parlions le même langage. Nous parlions sur le même plan. Nous parlions exactement le même langage patriotique. Nous parlions sur le même plan patriotique. Nous avions les mêmes prémices, le même postulat patriotique. Qu'en fait, eux ou nous, nous fussions des meilleurs patriotes, c'était précisément l'objet du débat. Mais que ce fut l'objet du débat, c'est précisément ce qui prouve que les uns et les autres, nous étions patriotes. Qu'en droit, en intention, ce fut l'objet du débat, nous autres, de ce côté-ci, nous ne l'étions pas seulement sincèrement, nous l'étions profondément d'abord, d'autant plus qu'on nous le contestait. Nous l'étions ensuite frénétiquement, peut-être avec une sorte de rage, parce qu'on nous le niait publiquement, et surtout parce que notre situation géographique dans la carte mentale et sentimentale, parce que les circonstances, les événements historiques nous avaient plusieurs fois donné les apparences de ne pas l'être. Fondés sur le même postulat, partant du même postulat, nous parlions le même langage. Les anti-dreyfusistes disaient « La trahison militaire est un crime et Dreyfus a trahi militaire. » Nous disions « La trahison militaire est un crime et Dreyfus n'a pas trahi. Il est innocent de ce crime. Tout a changé de face depuis que Hervé est venu. » La même conversation eut l'air de se poursuivre. L'affaire continue, mais elle n'était plus la même affaire, la même conversation. Elle n'était plus la même. Elle en était une toute autre, infiniment autre parce que le langage même était autre, infiniment autre parce que le plan même du débat n'était plus le même. Hervé est un homme qui dit « il faut trahir ». Nommément, il faut trahir militairement. Les anti-dreyfusistes professionnels disaient « il ne faut pas être un traître et Dreyfus est un traître ». Nous, les dreyfusistes professionnels, nous disions « il ne faut pas être un traître et Dreyfus n'est pas un traître ». Hervé est un qui dit, et Jaurès laisse dire à Hervé, et Dreyfus même laisse Jaurès laissez dire à Hervé, et en un sens et en ce sens au moins Dreyfus même laisse dire à Jaurès même, il faut être un traître. Nommément, il faut être un traître militaire. Par cet entraînement de proche en proche, par cette sorte de dérapage de proche en proche, par cette dérivation, par ce détournement, par ce déglinguement, Jaurès est entré dans le crime de Hervé. Par cette réversion, par cette réversibilité des responsabilités, et de la plus basse façon qu'on en y pût entrer, non point même par une complicité active qui a ses risques, qui a son efficience, qui peut avoir même, pour ainsi dire, sa grandeur, mais obliquement, mais bassement, par une complicité tacite, sournoise, par une complicité de laisser faire, de laisser passer, par une complicité les yeux baissés, la plus basse de toutes. Et Dreyfus, faute de marquer les temps, est entré, s'est laissé entrer dans le crime Jaurès. Quelle fut la répercussion de cette double dérivation, de cette double décadence, de ce double détournement, de ce détournement à deux temps sur l'efficacité de nos démonstrations dreyfusistes? Il était aisé de le prévoir. Quand on s'efforce de démontrer qu'un homme n'est point un traître, pensant profondément qu'il ne faut pas être un traître, on est au moins écouté. Mais quand on s'efforce de démontrer qu'un homme n'est point un traître, laissant dire et disant qu'il faut être un traître, l'opération, la démonstration devient extrêmement suspecte. Car alors, dans l'hypothèse hervéiste, qu'il faut trahir, qu'il faut être un traître, s'il n'a pas trahi, il a eu les plus grands torts, ce Dreyfus. Et alors pourquoi le défendre? Par une sorte de gageur, de suprême élégance, on le défendrait d'avoir commis un crime que précisément il faudrait commettre. On le défendrait d'avoir fait ce que précisément il fallait faire. C'est bien de l'honneur, c'est bien de la politesse. C'est trop poli pour être honnête. S'il faut être un traître militaire, Dreyfus a eu les plus grands torts de ne point l'être. Et on le défendrait précisément d'avoir fait ce qu'il faut faire. On dirait, il n'a pas trahi. Il a eu tort, car il faut trahir. Aussi, nous le défendons. Ce ferait un retournement de politesse bien acrobatique. Une galanterie bien française, un retournement en diagonale, diamétral de politesse, une opération bien suspecte. Ces gens ne vous avaient point habitué à ces gageurs de politesse. Tant de politesse devient extrêmement suspecte. Dans le raisonnement hervéiste, en effet, s'il est permis de le nommer ainsi, Dreyfus, tant qu'il ne trahit pas, est un bien grand coupable. Il est un grand criminel et d'autant plus coupable qu'il était mieux situé militairement, qu'il avait une admirable situation pour trahir, militairement. Hervé, lui, n'avait pas cet honneur. Il n'avait pas ce bonheur de pouvoir avoir à sa disposition les graphiques des chemins de fer. Comment, voilà un homme, Dreyfus, qui pouvait avoir en main les graphiques des chemins de fer, et il ne les aurait pas instantanément sabotés, quel être. Il ne faut pas oublier que Hervé est un monsieur qui, le premier jour de la mobilisation, plus précisément dans la première heure du premier jour, c'est-à-dire, je pense, de minuit 1 à 1h00, fusillera les 537 000 hommes de l'armée française active, plus les 1357 000 hommes de la réserve de l'armée active, qui forment avec elle le premier banc, puis les 576 000 hommes de l'armée territoriale, puis les 751 000 hommes de la réserve de l'armée territoriale qui forment avec elle le deuxième banc, sans compter le premier et le deuxième banc des volontaires, et si on ne l'arrête pas, il fusillera aussi les troupes noires de récente formation, la célèbre, la fameuse division noire, les tout-couleurs, Wolof, Saracolé, Malinké, et les autres populations, Djerma, Bella, Bariba, Baolé, Bobo, Soussou et Nago, et les tours-lourou, et mesdames leurs épouses. Tout ça avec des revolvers américains, car il ne veut point encourager la production nationale. Je me garderai de dire que ce sont des Browning. On leur a déjà assez fait de publicité à cette marque, auprès de ce grand massacre, bien connu sous le nom de massacre des deux bancs, que pèse la tradition d'un graphique des chemins de fer. Hervé parle souvent de l'affaire Dreyfus. Il en écrit dans son journal. S'il était conséquent, constant avec lui-même, s'il était logique, et logiciens, mais les plus rigoureux, les plus cruels logiciens pour les autres, ne sont pas toujours ceux qui sont les plus impitoyables pour soi. S'il était logique avec lui-même, il dirait « Nous avons défendu ce Dreyfus, nous avons eu tort ». Pensez donc, il était capitaine d'état-major. Enfin, il travaillait dans les bureaux de l'état-major de l'armée. Il était merveilleusement outillé, merveilleusement situé pour trahir, et malheureusement, il n'a pas trahi. Cet homme insuffisant n'a pas trahi. Voilà ce que Hervé dirait, s'il était logique et s'il était libre. Voilà ce que les événements, ce que la réalité dit pour lui. On voit assez quelle est pour nous la conséquence, quelle est sur notre situation historique la répercussion de ce changement de situation géographique. Quand je dis nous, naturellement, je veux dire notre parti, nos politiciens. Car il ne s'agit pas de nous-mêmes. C'est un retour en arrière, une répercussion en arrière, une répercussion remontante, reportée en arrière, réversible, réversée, reportée sur tout ce que nous avions dit, sur tout ce que nous avions fait, sur tout ce que nous avions été. Quand nous repoussions l'accusation d'être un traître, repoussant profondément l'idée même d'être un traître, on pouvait nous combattre, mais au moins nous nous faisions écouter. Quand au contraire, nous repoussons l'accusation d'être un traître, accueillons profondément l'idée d'être un traître, comment ne pas voir que nous devenons instantanément suspects, que nous perdons l'audience même, et même l'audience que nous avions déjà eue, obtenue, l'ancienne audience, une audience qui paraissait acquise, une audience aujourd'hui annulée. On peut se déshonorer en arrière. Jaurès ici intervient au débat et se défend. Si je reste avec Hervé, dit-il, dans le même parti, si j'y suis resté constamment, toujours, si longtemps, malgré les innombrables couleuvres que Hervé m'a fait avaler, c'est pour deux raisons également valables. Premièrement, c'est précisément, c'est à cause de ces innombrables couleuvres mêmes. Il faut bien songer que ce Hervé est l'homme du monde qui m'a administré le plus de coups de pied dans le derrière, en public et en particulier, dans les congrès et dans les meetings, dans son journal, publiquement et privément, comme dit Peggy. Il faut l'en louer, et comme il me connaît bien, il faut l'en récompenser, il faut que tant de zèle soit récompensé, comme il sait que je ne marche jamais qu'avec ceux qui me maltraitent, qui me poussent, qui me tirent, qui me bourrent. Et je ne marche jamais avec les imbéciles qui m'aimaient. Comme il connaît bien le fond, si je puis dire, de mon caractère, il faut bien que tant de perspicacité soit récompensée. Il me connaît si bien, il me connaît comme moi-même. Il sait que quand quelqu'un m'aime et me sert, le sot, me prodigue les preuves les plus incontestables de l'amitié la plus dévouée, du dévouement le plus absolu, aussitôt je sens s'élever dans ce qui me sert de cœur. D'abord un commencement, un mépris invincible pour cet imbécile. Faut-il qu'il soit bête, en effet, d'aimer un ingrat comme moi, de s'attacher à un ingrat comme moi, comme je le méprise, ce garçon. En outre, en deuxième, ensemble, en même temps, un sentiment de jalousie, de la haine envieuse la plus basse contre un homme qui est capable de concevoir les sentiments de l'amitié. Enfin, un tas d'autres beaux sentiments, fleurs de boue, plantes de vase qui poussent dans la boue politique comme une bénédiction de défense républicaine. Hervé sait si bien tout cela que je l'admire moi-même, comme il connaît bien ma psychologie, si vous permettez, et qu'au contraire, quand je reçois un bon coup de pied dans le derrière, je me retourne instantanément avec un sentiment de respect profond, avec un respect inné pour ce pied, pour ce coup, pour la jambe qui est au bout du pied, pour l'homme qui est au bout de la jambe, et même pour mon derrière qui me vaut cet honneur. Un bon coup de pied dans le hinterland, dans mon hinterland, et quand je pense qu'il y a des gens qui disent que je n'ai pas de fond, je hais mes amis, j'aime mes ennemis. On ferait une belle comédie avec mon caractère. Je hais mes amis parce qu'ils m'aiment. Je méprise mes amis parce qu'ils m'aiment. Parce qu'ils m'aiment, j'ai en moi pour eux, je sens monter en moi contre eux une jalousie bassement envieuse, l'invincible sentiment d'une incurable haine. Je trahis mes amis parce qu'ils m'aiment. J'aime, je sers, je suis, j'admire mes ennemis parce qu'ils me méprisent. Ils ne me haïssent même pas. Parce qu'ils me maltraitent, parce qu'ils me violentent, parce qu'ils me connaissent enfin, parce qu'ils me connaissent donc, et ils savent si bien comment on me fait marcher. Quand un me trahit, je l'aime double, je l'admire, j'admire sa compétence. Il me ressemble tant, j'ai un goût secret pour la lâcheté, pour la trahison, pour tous les sentiments de la trahison. Je suis double, je m'y connais, j'y suis chez moi, j'y suis à l'aise. On ferait une grande tragédie, une triste comédie avec mon caractère. Hervé ne la ferait peut-être pas mal, il me connaît si bien. Il y a des exemples innombrables que j'ai trahi mes amis. Depuis 30 ans que je fonctionne, il n'y a pas un exemple que j'ai trahi mes ennemis. C'est vous dire que j'excelle dans tous les sentiments politiques. On ferait un beau roman de l'histoire des soumissions que j'ai faites à notre camarade, au citoyen Hervé. Ce vice secret, ce goût secret que j'ai pour l'avani, j'encaisse. Ce goût infâme que j'ai pour l'avani, pour le déshonneur, de l'avani. Je suis l'homme du monde qui reçoit, qui encaisse le plus d'avanies, à mon banc, Dans mon journal même, à mon banc, Gued n'en rate pas une. Il ne manque point, il ne manque jamais de s'adresser à la chambre, au long de mes oreilles. Aussi, comme je respecte, comme j'admire, comme j'estime, comme je vénère ce grand Gued, ce dur Gued, de cette vénération qui pour moi le même sentiment que l'effroi. Comme je me sens petit garçon à côté de ces hommes, à côté d'un Gued, à côté surtout d'un Hervé. Et ce goût de l'ingratitude que j'ai, qui est au fond le même que le goût de la vanille, voyez comme aujourd'hui je traite et laisse traiter ou fais traiter Géraud Richard qui pendant 8 ans s'est battu pour moi. Ainsi parle Jaurès. Deuxièmement, dit-il, si je suis resté avec Hervé, c'est précisément pour l'affaiblir, pour l'énerver, pour lui oblitérer sa virulence. C'est ma méthode. Quand je vois une doctrine, un parti devenir pernicieux, dangereux, autant que possible, je m'en mets. Mais généralement, comme j'en suis, j'y reste. Mais alors, j'y reste complaisamment. J'y adhère, je m'y colle, je parle, je suis éloquent, je suis orateur, je suis oratoire, je redonde, j'inonde. Je reçois précisément ces coups de pied au quelque part que fort ingratement vous me reprochez. Pourquoi me les reprochez-vous, vous, à moi, puisque moi je ne les reproche pas à ceux qui me les donnent? Mais ces coups de pied, ça n'empêche pas de parler, au contraire, ça lance pour parler, enfin bref, ou plutôt long. Après un certain temps de cet exercice, et je ne parle pas seulement, j'agis en outre, j'agis en dessous. J'excelle dans le travail des commissions, dans les petits complots, dans les combinaisons, dans le jeu des ordres du jour, dans les petites manigances, dans les commissions et compromissions et ententes, dans tout le travail souterrain, sous la main, sous le manteau. Dans le jeu, dans l'invention des majorités, factices, faites, obtenues par un savant compartimentage des scrutins, dans tout ce qui est le petit et le grand mécanisme politique et parlementaire. Enfin, au bout d'un certain temps de cet exercice, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de parti, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune de ces virulences. Quand je me suis bien collé à eux pendant un certain temps, supportant pour cela les avanies qu'il faut, quand je suis resté dans un parti pendant un certain temps, pendant le temps voulu, au bout de ce temps, on voit, on s'aperçoit, tout le monde comprend que je les ai trahis. Comprenez-vous enfin, gros bête, me dit-il, me poussant du coude. Quand je me mets dans un parti, ça se connaît tout de suite, presque tout de suite, à ce que c'est un parti qui devient malade. Quand je me mets quelque part, ça se voit, ça se reconnaît, est-ce que ça va mal, ça ne marche plus. Quand je me mets dans une idée, elle devient véreuse. Je l'ai fait au dreyfusisme, je l'avais fait et je l'ai fait au socialisme. Je l'ai fait et je le fais à l'hervéisme, je l'ai fait et je le fais au syndicalisme. C'est encore le radicalisme que j'ai trahi le moins, il n'y a que le combisme que je n'ai jamais pas trahi du tout. Je crois Jaurès très capable de trahir tout le monde, et les traîtres même. Mais ici encore, il souffrira que nous ne l'accompagnions pas, pour deux raisons, nous aussi. La première est assez basse, et je m'en excuse d'avance. Elle est politique. C'est qu'on a beau être Jaurès, en pareille matière, on ne sait jamais où l'on va, jusqu'où l'on entre, jusque où on réussit, ou au contraire, jusqu'où l'événement réussit contre vous, jusqu'où les autres, ceux où l'on entre, réussissent contre vous, sur vous, en vous-même. J'entends bien que c'est une espèce de contre-espionnage. Mais justement, on sait assez combien les services du contre-espionnage, on l'a su notamment par l'affaire Dreyfus même, on l'a vu par tant d'autres, sont bizarrement mais naturellement embarbouillés, imbriqués dans les services contraires du droit espionnage. On ne sait jamais bien jusqu'où on trahit les traîtres, jusqu'où on y réussit, et jusqu'où, au contraire, la trahison, l'habitude, le goût de la trahison s'infiltre, pénètre dans les veines même. On voit bien ce qu'on fait pour eux, on voit moins bien ce qu'on fait contre eux. Quand on va officiellement, formellement avec eux, parmi eux, on voit bien la force qu'on leur apporte, on voit beaucoup moins le tort qu'on leur fait. La trahison de tous ceux que l'on fait avec eux, à leur exemple, dans leur compagnie, on voit bien ce qu'elle rapporte, ce qu'elle leur rapporte de trahison réelle. On voit bien ce qu'elle est de trahison, au contraire. La trahison d'eux que l'on est censé faire, on ne voit pas du tout toujours à quoi elle aboutit, ce qu'elle rend, ce qu'elle est. Quand une fois on a lâché, une fois qu'on a rendu la main, on ne sait plus jusqu'où elle se rend. Deuxièmement, et celle-ci est une raison de bonne compagnie, tirée de la vieille morale, et je suis heureux de la dire, on n'a pas le droit de trahir les traîtres même. On n'a jamais le droit de trahir personne. Les traîtres, il faut les combattre, et non pas les trahir. Charles Péguy, Notre Jeunesse.